des polars et des notes.
Bonjour à tous, amis de Des Polars et des Notes, heureux de vous retrouver pour une heure de littérature noire sur Radio Évasion, en compagnie de l'ami Pierre-Yves qui va nous faire un son du tonnerre du feu de Dieu, et des auteurs et éditeurs qui vous font frissonner toute l'année, mais particulièrement en ce début d'automne, où ils ne font ni dans la dentelle ni dans la bluette. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes les références des livres et bien d'autres renseignements sur le webzine 404, la Rolls de l'amateur de polar. Du polar et de la musique tout de suite avec Concerto pour quatre mains de Paul Collise qui vient de paraître chez Fleuve Édition. Ça raconte le casse du siècle, un truc de fou qui est commis à l'aéroport de Zaventem, proche de Bruxelles. Il y en a pour des dizaines de millions d'euros de diamants qui allaient être expédiés par avion. Il n'y a pas de violence, aucun blessé, aucune trace. Tous les soupçons, la police, les médias se tournent vers un dénommé Franck Jamais, qui est un virtuose du piano, qui aurait pu faire pianiste, soliste, concertiste, et aussi du braquage, mais apparemment il a décidé de prendre sa retraite depuis quelques années. Un avocat qui a un sens de l'honneur très développé et qui est un alpiniste confirmé, Jean Villemont, va par le biais d'un client qu'il n'aurait jamais dû prendre et qui prend par défaut un soir parce qu'il est obligé d'entrer dans la danse. Et ces deux hommes d'exception, entourés de femmes du même tonneau, vont finir par se croiser. C'est un suspense dingue, des rebondissements en cascade, pour un polar au style assez léger, assez désinvolte, mais qui cache une vraie tragédie. C'est tout le talent de narrateur de Paul Collise. Il y a beaucoup de musique classique, mais d'autres aussi, d'autres styles, comme par exemple Freddie Mercury, Living on My Own.
Living on my own. Sometimes I feel I'm always walking too fast. So lonely. Never been.
Un thriller particulièrement tragique maintenant avec Les Fauves qui est paru chez Robert Laffont dans la toute nouvelle collection La Bête Noire. Et Ingrid Desjours nous fait l'amitié de venir nous en parler. Bonjour Ingrid Desjours.
Bonjour.
Alors tout commence avec Aïko qui tente avec son association d'empêcher des jeunes de partir en Syrie. Oui. Et bien sûr, elle est la cible d'une fatwa qui invite ni plus ni moins qu'à la torturer, la violer et la tuer.
Oui, tout un programme.
Pas sympathique au départ. Ouais. Et donc, elle va embaucher Lars, un ex-militaire traumatisé, pour la protéger. C'est un couple un peu tragique dès le départ.
Mais disons que effectivement, ce sont deux personnes qui ont des personnalités très fortes, très marquées, ça c'est indéniable, mais qui sont elles aussi marquées par des traumatismes et par des espèces de missions, de sentiments d'avoir une mission qui les habite et qui dirige chacun de leurs actes.
On a l'impression que c'est un peu construit par strates, c'est-à-dire que le danger, il est extérieur, il est intérieur, il est un petit peu partout.
Oui, mais c'est à l'image de la société actuelle aussi, avec une espèce de climat de paranoïa. Effectivement, j'ai construit les personnages et toute l'intrigue par strates, en fait. C'est une espèce de spirale qui n'en finit pas de révéler de nouveaux aspects.
Et là, vous commencez très très fort, c'est un thriller, donc c'est pas une bluette. Et vous commencez très fort avec un massacre complètement délirant au Moyen-Orient. C'est un djihadiste dingue qui tire à la mitrailleuse lourde. Vous vouliez imprimer dès le départ les conséquences de ce qui est un peu aseptisé quand on dit départ vers la Syrie. C'est quelque chose qui est un peu désincarné comme ça. Vous vouliez montrer dès le départ ce que ça donnait en vrai sur le terrain.
Je voulais montrer effectivement et la violence de la chose et l'horreur, puisqu'on parle vraiment d'horreur, de cruauté, de choses complètement abjectes. Et en même temps, je voulais aussi montrer que, bien que ces personnes qui sont recrutées pour aller en Syrie, ce sont parfois simplement des gamins qui ont encore l'impression de jouer à un jeu vidéo, qui n'ont pas vraiment le sentiment d'être dans la réalité, qui ont une vision complètement déformée des choses, et qui ne mesurent pas la portée de ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont subi un lavage de cerveau. Et le prologue commence effectivement avec un jeune homme, Rudy, qu'on sent à peine sorti de l'adolescence et qui est très content parce qu'il va s'éclater à faire un carton sur des gens.
Oui, il joue à Call of Duty. Quoi.
Exactement, oui. Ouais.
Et Aïko elle-même, elle recule devant aucun moyen pour décourager les apprentis djihadistes. D'ailleurs, c'est une des parties du livre. C'est que ça crée tout un sentiment de trouble et de secret autour d'elle. Elle va jusqu'à enlever les gamins. C'est assez violent aussi.
Oui, exactement. D'ailleurs, c'est effectivement ce qu'on lui reproche. Mais quand tout a échoué, puisque avant d'en arriver là, elle essaye quand même de les dissuader, de discuter avec eux. Mais quand tout échoue, est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux sauver les gens malgré eux? C'est toute la question du libre arbitre. Est-ce qu'on laisse leur libre arbitre assez jeune, ou est-ce qu'on décide à leur place en les estimant incapables de savoir ce qui est bon pour eux? Et c'est vrai que c'est très violent.
Et est-ce que la fin justifie les moyens?
Est-ce que la fin justifie les moyens? Ouais.
Et ça commence également avec Nadia, la meilleure amie de Aïko, qui est assassinée sous ses yeux.
Oui.
Et donc, vous voulez imprimer vraiment que la violence, c'est pas que comme ça, ça devient concrète tout d'un coup, très vite.
Oui, la violence est concrète très vite, mais justement, c'est aussi à la fois pour ancrer cette espèce de climat de paranoïa dans lequel on peut évoluer parfois depuis le 7 janvier, mais aussi pour montrer que moi je me suis beaucoup documentée sur le djihad, sur les intégristes, et effectivement dans leur communication aujourd'hui les directives c'est faites un carton, ne visez pas forcément des personnalités connues, tapez au hasard, allez prendre une kalachnikov, ce qui ne coûte absolument rien de nos jours en cité, il faut quand même le savoir. Prenez un couteau, égorgez, éventrez, fabriquez une bombe, mais mettez de la violence, mettez de la peur, terrorisez. Et en fait, c'est vraiment... On a un contact brutal avec cette réalité dès le début du livre, parce que c'est la réalité pour ces gens-là. En tout cas, c'est ce vers quoi ils tendent.
Mais justement, votre défenseur contre ce djihadisme, et qui est celui qui doit prendre en charge Aiko, il est quand même très fragile, il est dopé aux amphètes, il a un syndrome de stress post-traumatique, il est complètement parano, il est complètement obnubilé par l'idée de Dieu et de rédemption.
Oui, oui.
Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il n'est pas si différent que ça des dingues qui sont au Moyen-Orient.
Mais non, mais c'est vraiment une question que moi je soulève et à laquelle je n'ai pas de réponse. Hein. J'ai pas la prétention de dire que j'ai une réponse, mais effectivement, vous dites deux choses importantes. La première, c'est que ces militaires qui reviennent complètement traumatisés, bon, plus ça va, plus on apprend justement à les prendre en charge et à les aider. Mais combien sont lâchés dans la nature avec une incapacité à ne serait-ce que verbaliser ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, un traumatisme qui les bouffe, qui les empêche de reprendre une vie normale. La question des amphétamines est une vraie question, c'est une question qui se pose, puisque comme je le dis dans le livre, on voyait des gens commettre des horreurs, assister à des horreurs, tenir 72 heures sans dormir quasiment, sans manger, on ne peut pas les envoyer sans aide chimique. Donc qu'est-ce qu'on en fait après aussi de ces gens qu'on a rendus complètement accros? Et puis l'autre question que vous soulevez, c'est que finalement, effectivement, et c'est ce que je montre dans le livre, un intégrisme vaut bien l'autre. Finalement, c'est une guerre entre personnes qui finissent par se ressembler. Je ressemble à mon ennemi c'est moi, et l'ennemi est à l'intérieur de moi aussi. Et c'est toute la question que soulèvent les fauves.
C'est le vieux truc de Nietzsche, à force de contempler l'abîme te contemple.
Exactement.
Et finalement, je voulais vous poser une question, et c'est très intemporel. En fait, il est plongé dans l'actualité, votre roman, mais quand on regarde bien, c'est les amours impossibles, c'est les trahisons, de la suspicion, c'est une grande tragédie classique.
Oui.
C'est bâti,
oui, oui.
C'est bâti sur le sur la tragédie grecque, et l'humanité n'a pas changé.
L'humanité n'évolue pas autant qu'on pourrait l'espérer ou le croire. Effectivement, on est toujours la proie de nos pulsions. Et c'est vrai qu'en plus, à certaines périodes de crise ou de fin de civilisation, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai parfois l'impression d'assister à la chute de notre civilisation. Et lors de ces grandes crises, ressurgissent des démons qu'on croyait complètement enterrés. L'obscurantisme, le fanatisme, le désir de conquête, de destruction de l'autre, une espèce de profond mal-être et de décadence aussi en parallèle. Et ces choses-là n'ont rien de nouveau. En fait, effectivement, c'est toujours la même tragédie qui se rejoue avec des protagonistes qui n'évoluent pas tant que ça.
Bah donc,
tout ce qui change, c'est les armes qu'ils ont à leur portée, finalement.
Bah donc, on peut dire que là, on est rassuré. C'était pas mieux avant, mais c'est pas beaucoup mieux maintenant non plus. Donc,
non,
ça continue.
Ça sera pas mieux après.
Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Ingrid Desjours. Donc, je vous rappelle le titre, c'est Les Fauves. C'est paru dans la collection La Bête Noire chez Robert Laffont d'Ingrid Desjours. On va se quitter, Ingrid Desjours, avec la confession de Lassa de Salah.
Parfait.
Que vous écoutiez en écrivant ce livre. Merci beaucoup. Bon après-midi.
Je vous remercie, Patrick. Au revoir. Merci.
Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi, par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur, avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur. Tu me donnes envie de tout détruire. t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
John Ribas nouveau est arrivé et il s'appelle « On ne réveille pas un chien endormi ». Donc c'est tout, bien sûr de Ian Rankin et c'est paru aux éditions Le Masque. Ribas revient avec deux intrigues bien tordues. Une récente avec un accident de voiture pas tout à fait banal. Disons qu'il y a quelques détails qui intriguent et qui intéressent particulièrement Ribas et Clark. Et ce brave John récemment réintégré à la crime, à Fox, le nouveau héros sur le dos des affaires internes, qui est sur la piste de la première équipe à avoir accueilli Ribas à son arrivée à la crime. Cette équipe, sobrement nommée les Saints de la Bible d'ombre, n'aurait pas été d'une intégrité totale et absolue, loin de là. Ribas va-t-il trahir ses anciens coéquipiers ? Va-t-il leur servir de sous-marin ? C'est tout l'enjeu du livre et en plus, il va falloir remonter jusqu'à l'histoire de cet accident qui n'est vraiment pas banal. Comme tous les Rebus, ce polar est une merveille de labyrinthe, de pistes brouillées et d'humour désabusé. Rankin ne surprend plus, il est systématiquement tout en haut et toujours aussi bon dans ses choix musicaux. The Saints Are Coming, The Skids, c'est de 1978.
Till the clouds don't roll and you come home the line well. But the shadow still remains in your descent, your descent. Still
Allez, les coups de main de Des Polars et des Notes, les éditions du Caïman que nous avons eues sur notre antenne et Jean-Louis Nogaro ont quelques soucis. Et Jean-Louis vient nous expliquer comment nous, lecteurs, nous pouvons contribuer à sauvegarder la diversité de l'offre éditoriale du Polar. Et ça, c'est très, très, très important. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Patrick et bonjour aux auditeurs.
Alors, que se passe-t-il ?
Alors, on rencontre un gros problème en ce moment, puisque notre distributeur vient d'être placé en redressement judiciaire. Et le distributeur, c'est la société qui vend nos livres, en fait, en librairie, et qui nous reverse les sommes, qui nous reverse les bénéfices. Et là, donc, depuis toutes les ventes depuis le mois de juin sont bloquées. C'est-à-dire qu'on est sur 4 mois sans salaire, quoi.
Et donc les éditions du Caïman, elles, se portent bien.
Les éditions en elles-mêmes, nous, jusque-là, on n'avait pas de soucis, là, mais on dépend vraiment de cette société-là. Et quand cette société est en difficulté, tous les éditeurs distribués le sont aussi.
Alors la question bête du mec qui connaît rien, pourquoi tu vas pas ailleurs ?
Alors, on est sous contrat avec eux pour le moment. Et le fait, alors je pensais que ça serait automatique, qu'on allait pouvoir demander, voilà... Mais c'est encore plus compliqué car la société est gérée par la société, c'est De Boréal, l'éditeur. Ils sont gérés, le distributeur, pardon, ils sont gérés maintenant par un administrateur judiciaire qui fait tout pour sauver les meubles, donc qui met des bâtons dans les roues pour les changements de contrat. Voilà, donc on est lié avec eux pour le moment. Et en plus du combat financier, parce qu'on va devoir bientôt payer nous nos fournisseurs, imprimeurs, etc. On est sur un combat juridique en même temps.
Et donc, comment t'aider ? Comment est-ce que les gens qui aiment le polar peuvent aider les éditions du Caïman ?
Alors, les gens qui aiment le polar déjà font beaucoup, comme tu es en train de le faire en nous ouvrant l'antenne, et c'est le cas de nombreux blogueurs, journalistes, libraires qui nous commandent des livres directement. Les deux manières qui peuvent nous aider à très court terme pour passer ce cap, c'est de faire rentrer des liquidités pour... on ne soit pas à notre tour en cessation de paiement. Il y a deux moyens. Le plus simple, c'est de commander des livres pour ceux qui apprécient ce que l'on publie, mais directement via notre site.
Que vous trouverez sur l'article de publication de l'émission Des Polars et des Notes.
Voilà. Donc ça, c'est le moyen le plus simple. Et sinon, et c'est un point important pour nous, on y attache énormément d'importance, tous les auteurs de la maison sont restés solidaires, c'est-à-dire qu'aucun, alors que je leur en ai fait la proposition, vu que nous sommes en difficulté, aucun n'a décidé de récupérer ses droits, et tous restent dans le navire Caïman, et certains d'entre eux ont organisé une cagnotte sur le site participatif qui s'appelle litchi.com. Donc il y a possibilité de faire un geste solidaire pour sauver les éditions. Je crois que pour y aller, il faut aller donc sur le site Litchi et puis taper « Sauver le Caïman », tout simplement.
Ok, bah, écoute, c'est quand même la moindre des choses parce que des petits éditeurs qui se battent pour sortir des textes qui ne sortiraient pas du tout ailleurs, il n'y en a pas des masses, c'est un boulot de chien. Parce qu'il y a les contraintes administratives et il y a le manque de personnel et il y a tout ce qu'il y a autour. Donc c'est un appel au peuple. Et voilà. Comment tu vois l'avenir là ? Est-ce que tu es plutôt optimiste ou...
Alors pour le moment, on est plutôt optimiste parce que la chaîne de solidarité est énorme. Énorme, j'en suis le premier surpris.
Eh ben ça fait plaisir ça.
Des courriers. Ah ouais, ça fait énormément plaisir. D'autres éditeurs, des auteurs d'autres maisons que l'on a rencontrés, beaucoup de libraires qui organisent alors ils appellent ça des vitrines solidaires, c'est-à-dire qu'ils commandent des livres et les vendent sans toucher de commission pour nous aider à passer ce cap. Et puis nous, de notre côté, on essaie de finaliser notre contrat avec cette société pour en conclure un nouveau. Donc voilà, on est optimiste, on est dans l'action, on continue à préparer les prochaines sorties, on veut y croire.
Eh ben écoute Jean-Louis, tu nous tiens au courant. Nous, on a lancé l'appel au peuple et puis on va se quitter avec « Aux armes, etc. », évidemment, de Serge
Super.
Gainsbourg. Serge Gainsbourg qui est cité dans un roman de l'ami Patrick Cojol, « Beau temps pour les couleuvres ». Qui est paru
Exactement.
Aux éditions du Caïman, bien sûr. Et pour tous les renseignements, vous regardez l'article de publication de Des Polars et des Notes. Merci Jean-Louis, bon courage.
Merci Patrick et merci à tous.
Et puis on est avec toi. Ciao.
Merci, à bientôt pour de meilleures nouvelles.
J'espère.
Au revoir.
Au revoir. Alors, loin de la Guyane qu'il décrit si bien, Colin Niel est avec nous pour nous en dire un peu plus sur ce diable de polar, Obia, qui est paru aux éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir. Bonjour Colin Niel.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que l'Obia, justement, tiens ?
Ah, l'Obia. Alors, l'Obia, c'est un terme qui est un peu difficile à définir parce que ça regroupe beaucoup de choses, mais en gros, c'est un peu le système de croyances magico-religieux chez les Noirs marrons, donc les habitants du fleuve Maroni, et qui se traduit notamment par des rituels dans lesquels on fait intervenir à la fois les esprits des Noirs marrons et aussi les plantes amazoniennes sous forme de bain. Voilà, on fait infuser des plantes dans de l'eau, on se les verse sur le corps, et c'est des rituels qui permettent qui servent de remède, qui permettent de soigner des maladies, mais qui en fait, moi ce qui m'intéressait dans le livre, c'est ceux qui permettent aux jeunes noirs marrons de se protéger. En fait, il y a un rituel qui existait pendant la guerre civile, qu'on appelle rituel d'invulnérabilité, qui permettait aux jungle commando, donc qui étaient un peu les rebelles qui se battaient contre l'armée du Suriname pendant la guerre civile dans les années 80, qui leur permettait de se protéger. On disait que cet obia-là leur permettait de se protéger même des balles. C'est-à-dire que quand on leur tirait dessus, les balles étaient déviées en fait sur leur trajectoire, quoi. Donc l'obia, c'est un peu tout ça, voilà. C'est un peu tout ce système de croyances qui est encore très présent chez les Noirs marrons.
Et donc votre livre, il se situe dans un endroit très précis, c'est à Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'ouest de la Guyane, qui a une frontière complètement perméable, où ça passe des deux côtés, d'un côté et de l'autre du fleuve, qui est très peu contrôlé. C'est la frontière avec le Suriname, et vous le décrivez comme le seul morceau d'Europe en Amérique du Sud.
C'est vrai que la Guyane c'est français, donc c'est le seul territoire, d'un point de vue administratif, le seul territoire européen d'Amérique du Sud. Et c'est une aubaine d'ailleurs pour les trafiquants de drogue, pour les trafiquants de cocaïne en fait. C'est-à-dire que faire passer de la drogue de la Guyane vers la France, en fait on a juste besoin de changer de département d'un point de vue administratif. Donc ça les intéresse beaucoup. Puisque cette drogue qui est produite vers la Colombie et qui est surtout consommée en Europe et en Amérique du Nord, ils cherchent tous les moyens de la faire passer d'un continent à l'autre. Et c'est vrai que Saint-Laurent-du-Maroni, enfin la Guyane et notamment Saint-Laurent-du-Maroni, est en train de devenir une vraie plaque tournante, quoi. C'est un peu le mot qu'on utilise du transfert de cocaïne de l'Amérique du Sud vers l'Europe.
Et donc, qui dit cocaïne dit mule. Et votre livre commence par une course folle, c'est celle de Clifton, un jeune noir marron qui fuit avec. On ne sait pas exactement ce qu'il fuit, mais il a le diable aux trousses, en plus des flics. Et il va traverser un peu. Il y a en même temps cette idée de course dans la forêt et une course dans un univers urbain.
Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène des mules, c'est un phénomène qui est en train de se développer, même d'exploser. Hein. Il y a 2 semaines, dans un avion, ils ont attrapé 17 mules dans le même avion, quoi, pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du phénomène. Et moi, je voulais essayer de travailler vraiment sur ces personnages, quoi, ces jeunes qui se retrouvent un petit peu embarqués là-dedans. Donc voilà, Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une ville qui est en train d'exploser au niveau démographique. Hein. On prévoit un triplement de la population dans les 15 prochaines années. Et puis on a 50% des jeunes qui sont au chômage, quoi. Donc encore une fois, pour les trafiquants, c'est génial, quoi. C'est vraiment une aubaine. Mais... Et il y a plein de jeunes qui en font les frais. On leur propose effectivement de passer la drogue, quoi. Malheureusement, dans la grande majorité des cas, ça se passe bien. Et puis des fois, ça se passe mal, quoi. Et donc là, on part un peu sur le scénario catastrophe, quoi. C'est effectivement ce jeune Clifton. On va assez vite comprendre que c'est un jeune qui devait prendre l'avion avec deux autres mules avec lui, et qu'en fait tout s'est mal passé et il se retrouve effectivement poursuivi par les gendarmes. Les deux autres mules, on retrouve deux autres mules mortes, tuées, et assez rapidement les soupçons s'orientent vers lui. Et donc il y a cette course poursuite, quoi. Je voulais vraiment mettre en place. Notamment toute la première partie du bouquin, que l'enquête des gendarmes soit calée en même temps sur cette course-poursuite de Clifton, qui est, on ne sait pas trop s'il est coupable ou victime, quoi. C'est-à-dire qu'il est à la fois coupable, bien sûr, d'avoir trafiqué de la cocaïne, et puis très fortement suspecté d'avoir tué ces deux autres jeunes. Oui. Mais voilà, en construisant sa personnalité, je voulais qu'on puisse se poser beaucoup de questions et qu'à la fois on veuille comprendre et en même temps on partage un petit peu cette situation où il est un peu aux abois et où il traverse toute la Guyane, en fait, de l'ouest à l'est, hein, pour essayer de s'en sortir, quoi.
Et à chaque fois, il y a cet antagonisme chez les flics aussi. Il y a différentes ethnies, c'est-à-dire qu'on a Anato, qui est un Djuka, qui a étudié en France métropolitaine, qui est revenu en Guyane. Il y a Marcy, qui est un créole, c'est local, il a la force du local, il parle pas la même langue. Tous les deux sont flics, tous les deux sont sur la ferme, et ils ont des motivations extrêmement différentes. Et ils ont une façon de traiter le problème qui est extrêmement différent. Comme s'il n'y avait pas d'unité, quoi, en face.
Ouais, c'était un petit peu ce que je voulais, quoi. C'était essayer de construire des personnages dont les motivations, dont les buts sont différents. Enfin, moi, je suis persuadé que, voilà, dans la police, chaque enquêteur a ses propres motivations. Est-ce qu'on est là pour traquer le coupable? Est-ce qu'on est là pour protéger la victime? Est-ce qu'on a nos propres motivations internes? Et je voulais vraiment travailler là-dessus.
Mais il y a l'âme un peu de la Guyane qui traverse un peu ces personnages, parce que c'est pas la même Guyane pour les deux.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que le capitaine Anato qu'on retrouvait dans mes deux premiers romans, qui est un peu mon personnage récurrent. Donc lui, il est Djuka. Donc le Djuka, c'est une des ethnies noires marrons, hein, donc les descendants des esclaves qui se sont enfuis, qui ont été reconnus libres, voilà, au Suriname. Il est un peu descendant de ce peuple, un peu avec toute son histoire, avec toute sa culture. Et puis en même temps, il a ce côté, il n'a jamais vécu en Guyane, il est en Guyane que depuis quelques années. Et donc, en même temps que le lecteur découvre la Guyane, il la découvre lui aussi. Et il est à la recherche de son histoire, de son passé, de ses parents, de tout ce qu'il n'a pas réussi à comprendre et à construire dans sa vie. Et en face de lui, il a ce personnage de Franck Marcy, qui lui est un créole. Donc les descendants des populations esclaves, métissées avec les colons sur le territoire de la Guyane, donc cette population qui est la population la plus importante, en fait, du territoire de la Guyane.
Et qui est chez elle, hein, qui considère qu'elle est chez elle.
C'est souvent beaucoup plus compliqué que ça, mais effectivement, qui, pour certains, ont effectivement une difficulté à comprendre et à intégrer cette population noire marron qui est en fait très fortement une population immigrée du Suriname, en fait, pour eux, à Saint-Laurent-du-Maroni. c'est un peu ça, c'est une ville qui était essentiellement créole dans les années 80, et qui, pendant la guerre civile, avec l'arrivée des réfugiés, ben voilà, pendant cette période qui a été assez, assez douloureuse, a vu en fait sa démographie et sa population changer. Et avec ben, cette la population, enfin les gens qui étaient là au départ, qui ont vécu ça un peu comme, comme un traumatisme, parce que du jour au lendemain, ils ont vu leur, leur ville muter complètement, quoi, et c'est en train de continuer aujourd'hui, quoi.
Ah ben on va faire une pause en écoutant de la musique locale, justement. C'est Keros N qui est présent dans votre livre avec Bao Love.
Ke Bao Love, Ke Bao Love, Ke Bao Love. Ke Bao Love, Ke Bao Love, Ke Bao Love. Ke Bao Love, Ke Bao Love, Ke Bao Love. Ke Bao Love, Ke Bao Love, Ke Bao Love. Soubi ki sa fè ou salive An wè gari ka fè an ke bau tout sa ou vle Jan a paray la an vè pa sa vire Kè vou e mwen loane an vè pa sa rive Chak oman e vè wè ka sa vure Wè gari ou pa fè mwen sa fè sa ou vle Kwa wè ou si tan wè ou chak a sa ture Chéri sa si Ke bau love, ke bau love, ke bau l'amou Ke bau love, ke bau love, ke bau l'amou Chéri an ke bau love Ke bao love, ke bao l'amour Ke bao love, ke bao love, ke bao l'amour
Ya ou pa sentiye, le va ou pa chuchote Bene ya ou presque a tremble ou ka mande voue Mwen le l'arrive, ke ya ou ka palpite Chéri an ou ale ou ka mande voue Mwen ke passe a la tape, mwen pe ke mette ou a la trappe Sa commence bon carte, mi a kate ou sa son track Ke vin jwenn vou a la nage, se ou taye si mwen pa la rage Ke ala pe pa tourne la page, donc si mwen a la
page Ke bao love, ke bao l'amour Ke bao love, ke bao love, ke bao l'amour Chéri, ke bao love, ke bao love, ke bao l'amour Ke bao love, ke bao love, ke bao l'amour
Chéri, ke bao love, doudou vini ke bao li Pani a se min me bao love, pani a se text me bao li Mwen kon keri wak e kre tot trok A ke chaye yon fe pa bapon tot li Te ye to a wos a vye ni tot tok A ke pran swede an kon poupe pa ou bi Chéri an ke pa ou li Yon fin yo pou nou sexy An mini chou pa ou sexy Desole an ve pa flexi Ou men an ke men sa sexy Ou vowe men fin nou sex friend Kala an ve pa flexi Tou fom a kwa flexi An
ke bao love, an ke bao love, an ke bao l'amou An ke bao love, ke bao love
Sa fè ou salive An wè gari ka fè an ke bao tout sa ou vle Jan a paray la an vè pa sa vire Kè vou e mwen loane an vè pa sa rive
Chak oman e vè wè ka sa vure Wè gari ou pa fè mwen sa fè sa ou vle Kwa wè ou si tan mwen ou chak a sa ture Chéri sa si Ke bao love, ke bao love, ke bao l'amour Chéri an ke bao love, ke bao love, ke bao l'amour
Bon, on revient tout de suite avec Colin Niel et Obia qui est paru au Rouergue Noir. Il y a des personnages qui sont importants dans votre roman, ce sont les femmes qui sont le socle de la société quand les hommes intriguent, se battent, s'énivrent ou sont en forêt. Et ce sont les seules qui restent, les mères qui pleurent et les filles qui s'inquiètent quand les hommes font tout ça.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que les femmes ont un rôle important, elles l'avaient déjà dans les deux premiers livres. C'est pas les femmes qui sont au combat, quoi, parce qu'effectivement, mine de rien, c'est quand même un petit peu représentatif de la société guyanaise, même si voilà, on a aussi beaucoup de femmes très 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 fortes et très puissantes en Guyane dans leur personnalité. Mais les rapports entre les hommes et les femmes sont quand même assez complexes aussi. Et je voulais travailler un petit peu là-dessus et avoir à la fois des femmes qui subissent et puis d'autres qui se battent, comme cette jeune fille qui s'appelle Mélissa, qui est assez importante pour moi, hein, qui est la fille du major Marcy, qui elle est vraiment le modèle, disons, on appelle ça en Guyane femme jock, c'est vraiment la femme forte, voilà, cultivée, qui se bat, etc. Et pour moi, c'est un personnage qui a beaucoup de sens. Et puis elle partage quelque chose avec le capitaine Anato, c'est qu'elle-même a vécu assez longtemps en métropole, parce qu'il se trouve qu'elle est sourde, quoi. Elle a eu un accident de naissance qui l'a rendue sourde. Et toute son histoire est un petit peu construite autour de ça, et son handicap, qui est la surdité, devient une force dans sa manière de se battre dans la vie et d'affronter le monde, quoi.
Et tous ces personnages-là, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est un polar, il y a quand même des enquêtes, et ils sont confrontés quand même à une corruption qui est toute puissante. Là, il y a aussi les narcos qui font à peu près ce qu'ils veulent, et les anciens ennemis justement de cette guerre au Suriname qui coopèrent. Et les gens ont du mal à se retrouver un peu dans tout ça. On a l'impression que vos personnages sont un petit peu perdus, qu'ils se retrouvent sur ce qui fait l'âme de la Guyane, mais plus sur ce qui en fait le quotidien.
Oui, c'est vrai. Bon, c'est sur la Guyane et le Suriname. La partie corruption est particulièrement présente au Suriname, puisqu'en fait, on parle de la guerre civile. Et c'est vrai que les deux ennemis principaux de la guerre civile, qui combattaient l'un contre l'autre pendant la guerre civile du Suriname, sont aujourd'hui ensemble au sein du gouvernement, puisque l'ancien dictateur est devenu président. Il a beau être condamné pour trafic de cocaïne par les Pays-Bas, il est toujours président du Suriname. Donc on a effectivement une classe politique ils ont décrédibilisé. Et ce qui est assez frappant, alors on le retrouve en Guyane dans une beaucoup bien moindre mesure, hein, bien sûr. Et ce qui est assez frappant, en fait, c'est de voir à quel point effectivement la population et notamment la jeunesse, en fait, méconnaît ce passé ou alors veut l'oublier, parce que disons les difficultés du présent font que on cherche surtout à...
Il cherche plus à survivre qu'à vivre.
Survivre, et puis on est beaucoup plus tourné vers l'avenir que vers le passé, quoi. Et c'est assez frappant de voir comment, pour en reparler, le président du Suriname, qui est quand même très largement responsable du massacre d'une bonne partie de la population noire-marron pendant la guerre civile, aujourd'hui, les jeunes noirs-marron votent très très largement pour lui. Il est plébiscité dans ces classes-là, quoi.
Mais en fait, on a l'impression que le pays, il est morcelé, mais qu'il y a une forme d'homogénéité.
Oui, c'est un peu la traduction de ce territoire ce territoire amazonien qui est divisé par des frontières. Hein. On a le Brésil, on a la Guyane, on a le Suriname, on a le Guyana, etc. Mais dont en fait le paysage est beaucoup plus façonné par la nature et par la forêt, par les fleuves que par les limites administratives. C'est vrai qu'on est sur des territoires qui sont tellement grands et tellement homogènes d'un point de vue naturel que la loi elle est plus dictée par la nature. Et c'est vrai que le Maroni, qui est considéré comme une frontière administrative entre la France et le Suriname, en fait, pour les Noirs marrons, pour les Amérindiens, pour les gens qui vivent là, c'est un territoire à part entière, quoi. Souvent, on a son terrain agricole d'un côté, on a sa maison de l'autre, on a de la famille des deux côtés, on a un téléphone portable surinamien et un français pour passer d'un côté à de l'autre. Et c'est un peu cette impression que on change de pays, mais en fait, c'est des populations qu'on toujours eu l'habitude de passer d'un côté à l'autre, quoi.
Et le sentiment que j'ai eu en finissant au Biol, en remontant toute l'enquête, c'est que vous aviez voulu créer une mosaïque. C'est-à-dire que toute votre enquête, enfin toute l'enquête que vous décrivez, les enquêtes, parce qu'il y en a beaucoup, et il y a beaucoup d'aventures, là, par petites touches, vous créez une sorte de portrait de la Guyane de l'Ouest. Et avec le recul, on a l'impression de voir mieux ce que c'est.
Oui, c'est un peu le but. Moi, j'essaye de vraiment de construire un polar et de me concentrer sur l'histoire et sur l'intrigue et sur les personnages. Mais c'est vrai que par petites touches, en multipliant les points de vue et les personnages, j'essaye aussi de refléter quand même une certaine réalité de l'ouest de la Guyane, même si c'est forcément une vision partielle et mon interprétation de ce qu'est ce territoire. Moi, j'ai été frappé par la situation à Saint-Laurent-du-Maroni, notamment toute cette jeunesse qui se posent quand même beaucoup de questions, enfin qui se les posent pas forcément, mais pour lesquelles on se pose beaucoup de questions pour l'avenir. C'est effectivement une sorte de mosaïque, parce que chacun a ses intérêts, chacun a ses propres questionnements, et là, moi ce que je voulais voir, c'est comment tout ça pouvait pouvait pas s'harmoniser mais s'imbriquer pour construire une forme d'image de la situation actuelle et des questions de l'avenir, quoi.
Oui, mais là, c'est un peu le sentiment qu'on a. Mais en plus, il y a tout un mélange. C'est-à-dire qu'ils sont... Effectivement, tous ces jeunes sont très, très influencés par la culture américaine. Les Jay-Z, enfin, etc. Et en même temps, très proches de la mythologie africaine, des rites magiques, de la sorcellerie et de l'hyper-technologie qu'il y a à Kourou. Il y a tout une sorte de chaudron magique qui crée un peuple à partir de multiples ingrédients.
Oui, bon, c'est exactement ça. Après, je pense que c'est valable dans toute société, mais c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant de voir comment dans une population qui accède à la modernité, où effectivement on est quand même en Europe, hein, officiellement on est en Europe, pour plein de raisons, tout ce que les jeunes de chez nous connaissent, hein, que ce soit Facebook, les smartphones ou la musique nord-américaine, le rap, le reggae qui est effectivement pas loin, le dancehall, qui sont un peu toutes ces cultures afro-caribéennes sont très présentes. Et à l'intérieur de ça, on a effectivement toutes les croyances, donc de l'obia, mais effectivement de la sorcellerie, toutes ces choses-là, avec lesquels, disons, les gens entretiennent une relation un peu étrange, où, disons qu'officiellement, on n'y croit pas, mais en pratique, on continue toujours d'y croire un petit peu, quoi. Ces jeunes qui officiellement ne croient pas à la sorcellerie, c'est étonnant de voir avant une naissance, avant de passer un examen, avant de passer le permis de conduire, ils sont quand même très très attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux pour être sûr que quelqu'un n'est pas en train de leur vouloir du mal ou de leur jeter un sort qui va affecter un petit peu leur avenir, quoi. C'est assez frappant. Et ça m'intéressait aussi, on parlait de la politique de tout à l'heure, de voir comment ces croyances-là ont une influence sur la situation politique et sur les choix que les électeurs peuvent faire à un moment ou à un autre de leur vie, quoi.
Et ça, on peut y être confronté ici aussi.
Oui, tout à fait, oui.
Merci beaucoup, Colin Niel. On va quitter la Guyane avec Canibi et Baby. Moi, je vous recommande de lire Obia de Colin Niel, qui est paru aux éditions du Rouergue. C'est un excellent polar et en plus, c'est une découverte exotique de la Guyane de l'Ouest. Merci beaucoup, bon après-midi.
Merci à vous. Baby, why you tease me so good? While I'm loving you the most, now you go. You say you love me, now you don't. Good. Come to see me now, you won't. You're confusing me with your moves, baby. Keep me guessing what is next that you're gonna do. Now don't you deny it. Baby, why you tease me so good? People think that I'm a fool. Now you go, today me hot and then me not good. Telling me this instead of that. You're confusing me with your moves, baby. Keep me guessing what is next that you're gonna do now. More than a friend, more than a brother. Oh honey, I will keep you like a soldier got his queen. I will protect you with my life. Oh honey, I will keep you like a soldier got his queen. I will protect you with my life. Baby, why you tease me so good? Can't you see how I love you? Now you go, you lift me up and let me down. Good, turning me around just like a circus clown. Confusing me with your moves, baby. Keep me guessing what is next that you're gonna do. Now don't you deny it. Girl, if you love me true, why don't you tell me so and release me from this fear? I would love you even more than a friend, more than a brother.
soldier, God is queen. I will protect you with my life, star. Protect you with my life.
I will protect you
with my life. Baby, why you tease me so, girl? Can't you see how I love you? Now you go, you lift me up and let me down, girl. Turning me around just like a circus clown. Confusing me with your moves, baby. Keep me guessing what is next that you're gonna do now. More than a friend, more than a brother. Oh, honey, I will keep you like a soldier. God is queen.
Encore une nouvelle collection dans l'univers du polar cette année avec Sonatine Plus, des éditions Sonatine. Et comme on ne se refuse de rien à des polars et des notes, je reçois Arnaud Hoffmarcher qui nous explique et ce que nous, lecteurs, nous allons y trouver. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors qu'est-ce donc Sonatine Plus ?
Alors Sonatine Plus, l'idée... C'est qu'en fait, dans l'édition, il y a beaucoup de livres qui font l'actualité, qui sortent partout, surtout chez Sonatine, on est surtout dans le roman anglo-saxon, qui sortent dans tous les pays à la fois, qui sont des événements, etc. Et nous, on s'est dit, enfin on se dit d'ailleurs depuis toujours, parce que Sonatine, c'est pas la première fois qu'on fait ça, qu'il y a aussi de très très bons textes qui peuvent avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui n'ont jamais été publiés en France, ou qui ont été publiés mais qui sont passés totalement inaperçus et qui sont largement aussi bons, voire meilleurs que toutes les nouveautés qu'on peut nous proposer. Donc voilà, l'idée c'était de se dire en littérature, il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de vieux textes. Est-ce que De sang froid de Truman Capote est un vieux livre ? Non, ça reste toujours des livres actuels. La qualité n'a rien à voir avec le nombre des années. Donc c'était de proposer des livres anciens, ou qui n'ont jamais été publiés, ou qui ont déjà été publiés, mais qui sont passés inaperçus, mais de très bons livres qu'on met dans cette nouvelle collection.
Oui, parce que Sonatine faisait déjà, moi je me rappelle l'extraordinaire L'origine du mal de Shane Stevens, qui n'avait jamais été édité en France, je crois.
Et... Oui, c'est un livre qui était sorti en 1979 aux États-Unis. On a fait ça plusieurs fois, mais en fait on a trouvé beaucoup, beaucoup de livres. On publie en fait que 20 livres par an chez Sonatine, et on a trouvé beaucoup de très bons textes, et donc l'idée c'était pas de devenir une maison qui ne fait que des textes comme ça anciens, mais on en avait beaucoup sous la main, donc on s'est dit créons une collection, et puis comme ça va nous permettre de partager notre enthousiasme sur des livres des années 90, 80, 70, très très bien, et pouvoir publier tout ce qu'on veut, quoi.
Oui, là ce sera clairement identifié. Et c'est pas un pari risqué à une époque où tout ce qui a plus de 3 semaines est obsolète?
Si, c'est un pari risqué, mais c'est pour ça qu'on l'a pris. ça change un peu du train-train habituel de l'édition. Et puis on s'est rendu compte, par exemple, vous parliez du Shane Stevens ou des gens qu'on a publiés, qui avaient quand même, ce que veulent les lecteurs, c'est avant tout des bons textes. Et quand on leur propose des bonnes choses, en général, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne.
Et comment vous choisissez
un texte, pardon ?
Comment vous choisissez les romans que vous allez sortir dans cette collection, justement ?
Bah écoutez, en se baladant dans les librairies anciennes anglo-saxonnes, on fait notre marché, on sort avec plein de livres, on les lit. Ou alors il y a il y a beaucoup d'auteurs, des gens qu'on publie chez Sonatine, comme Gillian Flynn, R.J. Ellory. Quand on les voit, on leur demande mais qu'est-ce que vous avez comme livre coup de cœur qui n'est pas forcément très connu, etc. Et ils nous donnent des pistes. Et voilà comment ça se passe, quoi.
Les deux premiers, c'était R.J. Ellory, Papillon de nuit et Aveuglé de Stonafitch, qui sont deux grands textes.
R.J. Ellory était inédit en France, c'est son premier livre qu'il a publié dans les années 90, qui est un livre absolument excellent, comme tout ce que fait Ellory, qui a vraiment une qualité constante. Donc ça, c'était totalement inédit en France. Et le Stodafitch, c'était un livre qui avait été publié par Kalman Levy dans les années 90 et qui, à travers une histoire, un suspense assez passionnant, mettait en jeu tout ce qui est le rapport à l'image, à l'écran, au terrorisme. Enfin, il y avait des choses très actuelles dedans qui, à l'époque, étaient visionnaires en avance sur leur temps, mais qui maintenant parlent vraiment, quoi.
Quel va être le rythme de publication?
Alors, a priori, on va en faire 4 par an, avec à chaque fois deux inédits en français et deux redécouvertes de livres qui avaient déjà été publiés en France.
Et les prochaines sorties, là, tout de suite, là, c'est...
Alors là, on ressort un livre de Harry Cruz qui date des années 70, qui s'appelle Les Portes de l'Enfer, qui est une histoire qui se passe dans une maison de retraite très, très noire. Donc Harry Cruz, c'est un auteur mythique qui a été publié longtemps dans la série noire. Et il y avait encore cet inédit, donc il n'est jamais publié en France. Et le deuxième, c'est Le Prix du Plaisir de John Lanchester, que Le Seuil avait publié il y a une quinzaine d'années, qui est un roman magnifique sur la gastronomie et le meurtre.
Ah, c'est intéressant, ça.
Ouais.
Bon, ben, on en sait un peu plus, merci beaucoup. On va se quitter avec un bon vieux blues qui est tiré de Papillon de nuit, évidemment, de Hergé et Laurie. Oui. Ça s'appelle Smokestack Lightning de Howlin' Wolf. Merci beaucoup, Arnaud Hofmarcher. Je vous rappelle l'édition, c'est Sonatine Plus, et ce sont des textes qui méritent d'être lus parce que ce sont d'excellents bouquins. Merci, bon après-midi, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Et voilà, Howlin' Wolf, c'est bien de finir sur du blues, mine de rien, je pense que c'est la meilleure musique pour se quitter en cette fin d'après-midi, et c'est la meilleure musique aussi pour accompagner notre littérature. Rendez-vous au mois de novembre, bien sûr, avec de nouvelles terrifiantes ou palpitantes, et sur 404 en attendant, bye bye. I'm going to go to the hospital.